Je me demandais ce que c'était et je me suis dit que c'était effectivement un gros machine à laver.
Mais carrément. Je vais m'appeler de femme. Tu veux que je prenne un truc ou ça?
Tu peux prendre un pied.
Ok.
J'enregistre tout ce qui se passe là.
Les méchants depuis le début.
Ah bon?
Pour faire de la matière.
Ah ouais. D'accord.
Ça se trouve, ça servira.
Transistor.
T'as le noir? C'est en mode micro. Est-ce que tu peux parler?
Oui, bonjour Nicolas.
Super, c'est parfait. Et si on prenait le temps d'une rencontre, d'un portrait sans l'image mais avec le son, le temps d'échanger avec un homme, une femme, qui mêle intimement sa vie à l'art. Les théâtres sont toujours des lieux rares, magiques, où vibre encore l'écho de tous les spectacles passés et la promesse de ceux qui viennent. Notre invitée aujourd'hui, Mélanie Plancheneau, a eu la chance d'assister à la naissance du théâtre Les Trois Chênes à Loiron-Ruillé. Mieux, elle a largement contribué à la conception de ce superbe lieu culturel, sans doute l'un des plus réussis du département. Alors que Les Trois Chênes fête aujourd'hui leurs 10 ans, on s'y promène en compagnie de sa directrice pour voir ce qui s'y passe en coulisses, derrière le rideau. C'est qui, c'est quoi la vie d'un théâtre? Bonjour Mélanie.
Bonjour Nicolas.
Ça va?
Ça va très bien, merci.
Alors, il fait un peu frisquet, moins beau qu'il y a quelques jours, au moment où vous avez fêté justement ces 10 ans. Il y avait plein de monde là sur le parvis où on est, juste devant le théâtre. Oui. C'était sous un grand soleil. Et vous avez fêté en beauté ces 10 ans, puisqu'il y a eu plein de spectacles pendant 3 jours, plein de propositions et plein de publics. C'était important de marquer le coup. De ces 10 ans.
Mais oui, on ne pouvait pas ne pas commencer cette saison sans proposer cet événement. Effectivement, 10 ans après, c'était l'envie de réunir tous ceux qui viennent ici déjà depuis 10 ans,
ouais.
De faire un zoom aussi sur ce lieu qui existe dans le département depuis 10 ans et puis sur ce territoire, pour ceux qui ne l'auraient pas encore visité, qui ne seraient pas encore venus, et puis aussi de rassembler les artistes et les bénévoles autour d'une grande fête du spectacle vivant.
Et alors, on est à Loiron-Ruillé, je ne sais pas si je l'ai dit, 2470 habitants. On ne s'attend pas forcément à trouver dans une petite commune comme ça, une commune rurale, un tel bâtiment qui offre un tel confort pour le public et les artistes. C'est quand même assez exceptionnel.
C'est vrai, c'est ce qu'on nous dit, notamment les équipes artistiques qui viennent ici. Hein, c'est assez inattendu, en fait, d'avoir un théâtre comme celui-ci en pleine campagne, dans cette commune, dans la commune de cette taille. En fait, c'est lié tout simplement à l'historique, puisqu'en fait, c'est une communauté de communes qui a mis en place ce projet. À une commune de cette taille n'aurait pas pu.
C'était pour rayonner sur un territoire bien plus important que celui de la commune, mais
exactement.
Sur un territoire intercommunal avec tout un bassin de vie, de population qui converge vers est concerné par ce lieu, par cette saison culturelle.
C'est ça. Et puis à proximité du bâtiment administratif de l'ancienne Comcom. Voilà, on est à l'extérieur. Là, on voit les deux bâtiments. C'est entrée en matière peut-être sur cette lecture un peu de ce qu'on a devant nous. Donc effectivement, c'est un projet qui est né. C'était le projet du mandat du président de l'époque en 2008.
Président de la Comcom, la communauté de communes.
Du Pays de Loiron, exactement, qui depuis déjà 10 ans avait une ambition culturelle forte pour son territoire et même un peu avant aussi avec l'école de musique et pour lui c'était sur ce mandat là d'avoir un équipement digne de ce nom pour la saison culturelle du Pays de Loiron puisqu'elle avait déjà en 2008 presque 10 ans cette saison culturelle nomade sur le territoire et puis de nouvelles salles pour l'école de musique qui était vraiment arrivée à saturation avec le nombre d'élèves et le nombre d'enseignements et de cours hebdomadaires.
Alors, comme tu l'as dit, je te remercie pour la transition. On est face à ce bâtiment. Alors le théâtre des Trois Chênes, en fait, effectivement, il s'est ajouté à un autre bâtiment qui préexistait. Mais ils se font complètement dans le paysage, je trouve, et aussi dans le voisinage de cet autre bâtiment. C'est une architecture contemporaine, on peut le dire, avec des lignes épurées, sobres. On est à la campagne aussi, tu l'as dit, je voulais le redire, derrière c'est les champs et ça participe à l'identité du lieu aussi, ça c'était ce côté justement on est presque, on est au milieu des champs, ça participe à l'identité, au charme, non, du lieu.
Et oui, c'est vrai que c'est nous on y est au quotidien, mais effectivement c'est ce que les artistes nous disent, les personnes aussi, le public qui vient ici est très surpris d'avoir ce lieu en pleine, dans le bocage en fait entouré d'arbres, on entend les oiseaux là peut-être, voilà. Et effectivement, tu parlais de l'écriture contemporaine, l'écriture architecturale de Détroit Chêne, c'est une écriture contemporaine en fait. Il y a eu un concours d'architectes avec 3 architectes, voilà, sélectionnés pour concourir. On avait reçu près de 80 dossiers, candidatures au départ. Et effectivement, ce bâtiment, dans sa ligne, nous a semblé, et puis dans ses fonctionnalités, ça c'était clair que les fonctionnalités étaient essentielles.
Il faut pas que ça soit beau seulement.
Voilà. Après, le geste architectural qui appartient à l'architecte, effectivement, nous a séduit d'emblée avec un bâtiment qui n'est pas plus haut que l'autre. Ça suit la ligne topographique. Donc là, c'était important de garder aussi des volumes assez calmes.
Hyper harmonieux, en fait.
Voilà, c'est ça. Qui se déploie plutôt vers le fond pour garder effectivement ce bassin d'orage qu'on voit ici. Alors, aujourd'hui, on a l'impression que c'est une petite mare. On a des tritons, d'ailleurs, dedans. Voilà, il y a une petite faune.
Je disais qu'on était à la campagne.
Exactement, des salamandres. Enfin, voilà, on a une petite faune à côté des bureaux. C'est... Super. On a des voisins. Voilà, donc l'architecte et son équipe voulaient absolument garder déjà cette inscription paysagère qui était forte, avec un... Si on se retourne, là, effectivement, on voit le parking qui existait déjà. Donc voilà, il y a aussi des considérations économiques. On a déjà un beau parking paysager. Il a été réutilisé pour le théâtre, avec ce parvis qui a été créé pour se rendre effectivement vers le hall du théâtre.
On a envie de rentrer là, comme c'est construit, comme c'est conçu. Un dernier détail sur l'architecture aussi. J'aime beaucoup le choix d'un bardage en bois. Noir, donc effectivement on reste dans la sobriété, dans quelque chose de très élégant, de très épuré, avec ce bardage en bois qui est à la fois il y a un côté un peu géométrique et presque industriel, et en même temps c'est du bois, donc voilà, on s'inscrit aussi dans quelque chose de naturel qui s'inscrit bien dans ce paysage là.
Oui, c'est une réponse effectivement architecturale à l'environnement paysager, aussi au parement d'ardoise de la maison de pays à côté. Voilà, il y avait une sorte de réponse comme ça à la fois dans le paysage naturel et le bâti déjà présent.
Et comme tu disais, on a envie d'entrer, notamment parce que ce que je trouve très réussi, c'est que la façade est entièrement ouverte avec une grande baie vitrée. Elle donne directement sur le hall d'accueil du théâtre. Et il y a ce choix d'une couleur rouge pétante quand même, c'est pas un petit rouge quoi, un rouge vraiment affirmé et qui donne envie, on a envie de rentrer en fait. Ce rouge là il nous accueille, il nous attire, on a envie d'aller voir. Et il y a ce côté dedans-dehors aussi qui est vraiment très chouette. Et alors le choix de ce rouge, j'imagine ça a dû d'une discussion, est-ce que ça fait écho aux couleurs traditionnelles du théâtre, les fauteuils rouges, le rideau rouge, est-ce que c'était ça ou pas du tout, enfin,
Oui, c'est vrai que pour l'architecte...
Et puis on peut peut-être y aller tranquillement, d'ailleurs, si tu veux.
Donc là, pour l'architecte, c'était effectivement de faire un rappel des fauteuils rouges, du rouge du spectacle. Exactement, Nicolas, c'était tout bon. Et puis d'avoir ces deux couleurs comme ça, le vert de l'extérieur, parce qu'on est entouré de vert.
C'est vrai, ouais.
Et effectivement, c'est ces deux couleurs. Et puis un appel rouge aussi, comme tu disais, effectivement, tout de suite, on voit que c'est le hall d'entrée, il n'y a pas de questions à se poser, les portes d'entrée sont là. Donc pour l'architecte, c'était aussi de se dire on a une lecture très simple et évidente de ce bâtiment. Voilà, de loin, on sait tout de suite que c'est le hall d'entrée. Avec effectivement, quand on est à l'intérieur, on va rentrer cette ouverture vers la nature. Ça, c'était aussi pour l'architecte quelque chose d'essentiel qui nous a tout de suite séduit. C'était d'avoir effectivement, quand on est à l'intérieur, on a l'impression d'être dehors, quoi.
Voilà, alors là, justement, on est à l'intérieur. Dans ce hall d'accueil qui est très accueillant, il joue bien son rôle, plutôt en longueur, c'est à la fois confort, parce quand on attend pour un spectacle, on n'est pas tassé, il y a de l'espace, et en même temps, on n'est pas perdu dans quelque chose d'écrasant. Quoi.
C'est vrai. Ouais. Nous, dans le projet, effectivement, quand il est sorti, on a été séduit effectivement par ce hall à taille humaine. Parfois, les projets sont tous différents, architecturaux et effectivement de lieux de spectacle. Mais voilà, sur quelque chose qui n'est pas écrasant, on rentre presque dans une pièce. Oui. On se pose pas la question d'avoir quelque chose qui nous écrase, qui impose tout de suite, quelque chose de peut-être du recueillement ou de voilà. On est vraiment dans un hall qu'on a voulu familier dans son mobilier.
Oui, c'est vrai, ouais. On peut le dire aussi, effectivement, il y a plein de cadres, de tables, de chaises.
C'est ça.
On se croit
un salon, peut-être.
Comme à la maison.
Comme à la maison.
Et puis, bien sûr, c'est aussi un lieu de vie. Un hall d'accueil, c'est pas juste un lieu d'attente. C'est un lieu de vie parce que, bah voilà, sur la gauche, sur notre gauche, on a un bar, un beau bar rouge aussi.
Important pour l'après-spectacle.
Des chaises, voilà, pour pouvoir partager un verre après le spectacle, discuter. C'est aussi ça, un lieu culturel, un lieu de théâtre. Et puis c'est un endroit où vous faites des choses aussi, des conférences, des préludes. C'est pas juste, comme je disais, un lieu fonctionnel. C'est aussi un lieu qui vit.
C'est ça, effectivement, on propose des avant-spectacles, 3 ou 4 dans l'année. On a une petite restauration avant côté bar, entre la conférence rencontre et puis le spectacle, petite restauration, voilà, pour que ce lieu soit pas seulement un lieu de passage, mais aussi un lieu de vie, effectivement.
Comme on s'y sent bien, effectivement, avec ce côté très ouvert vers l'extérieur, effectivement, faut qu'il vive cet endroit, on a envie d'y être.
Mais oui, on a envie d'y être.
Alors on va aller dans le lieu névralgique.
Et oui, le cœur.
La salle de spectacle. D'ailleurs, il y a un petit écriteau, c'est écrit salle de spectacle.
On ne peut pas se tromper.
Et là, on rentre effectivement dans cette salle. Mmh. J'adore cette entrée avec deux grands murs.
Oui, c'est très... un peu plus monumental,
oui,
du coup.
Ça, très haut, mais du coup, ce que j'aime beaucoup. Alors, on voit que on est entre deux murs parce que le son, j'imagine, vous l'entendez, est beaucoup plus réverbérant. Mmh. Mais en tout cas, ce que j'aime beaucoup dans cette entrée, c'est justement, on passe dans autre chose, quoi. On sort du quotidien, de la réalité, du monde réel, pour rentrer dans un lieu où on sera dans une autre réalité.
Voilà, c'est ça.
Et ça fait vraiment, alors je ne sais pas si c'était voulu, mais moi, chaque fois que je viens ici, ça me fait cet effet. D'accord. Que je passe par là, ça y est, j'ai switché, je suis ailleurs.
Eh bien, c'était le sas nécessaire.
Exactement, le sas.
Et c'était écrit, de toute façon, dans le projet des architectes.
Ben c'est hyper lisible, en tout cas.
Exactement, on crée un sas comme ça, où on va s'installer dans la salle.
Et ça y est, on y est.
On y est.
Peut-être au son que c'est un autre son.
Et finalement, c'est une grande boîte noire, ce théâtre. Le plateau, bien sûr, en boîte noire. Mais même, voilà, on est dans une architecture très très simple. Ce sont des murs de béton peints en noir. Effectivement, tant que ça ne vivait pas, pour moi, je me suis dit, est-ce que c'est pas un peu trop brut? Est-ce que c'est pas un peu trop aride? Puisqu'en fait, on a ces murs noirs, ce béton peint en noir, et puis ce gradin en fixe. Donc là, c'était une volonté de créer un vrai théâtre. De ne pas avoir une salle dite polyvalente, même si d'avoir un gradin rétractable serait aussi super pour faire d'autres choses.
Oui.
Mais voilà, c'était la volonté d'avoir aussi cette facilité d'utilisation, un gradin en fixe et plus... Voilà.
Donc
et puis au niveau des coûts aussi.
C'est combien de places?
Alors on est à 236 places. 236. Ouais. Et puis là, le geste qu'a pu apporter l'architecte dans cette proposition, c'est d'avoir des fauteuils rouges, mais avec quatre couleurs dans le camailleux rouge, qui va effectivement permettre de faire de faire vibrer un peu la salle et les fauteuils, et ça permet de donner de la vie. C'est très graphique, effectivement, et dans cette boîte noire, ça fait une belle résonance.
Et donc là, on fait face on peut y aller au plateau, à la scène, du coup, qui est immense.
Alors 18 par 12.
Ah oui, voilà. 18 mètres par 12.
18 mètres
ça
par
va,
12.
Ça va, tu suis.
C'est voilà, bon. C'est bon. Hop, on monte sur les petits gradinages.
Super.
18 mètres par 12 avec une... le retour des équipes artistiques, c'est la proximité entre le public et le plateau.
Le fameux rapport scène-salle, comme on dit dans les métiers culturels.
Dans
mais
le
effectivement,
jargon.
On est à la fois quand on est sur scène, là on y est, on est face au public... On est prêt même du dernier rang. On peut voir, je pense, dans les yeux la personne qui est au dernier rang. Et puis, en même temps, on ne se sent pas écrasé quand on est sur scène. Et de la même manière, quand on est en salle, on est très proche de la scène. Et on ne se sent pas non plus dans un lieu où on serait en surplomb.
Oui, c'est vrai, parfois c'est un peu vertigineux quand on est tout en haut. Voilà, là c'est pas le cas. Le principe a été vraiment écrit pour être dans une proximité. Et puis avec cette régie en haut, ces régies en fond de scène, toutes ouvertes, très pratique.
Porque andas arrastrando esa desdicha. bien, pero la pagarás muy caro. Con tu mirada de fiera ofendida, con tu vendaja donde herida no hay, con tus gemidos de madre sufrida, espantarás a tu última esperanza. Es de tu puño algo cariñoso y es de tu adiós un ay mi amor, y de tu seña una sonrisita, y de tu fuga ya voy llegando. Mija, qué pena me da de verte dejando olvidado a tu cuerpo, muy lista pobre boba dedicarte a la eterna disección de un pecadillo. Mujer, desnúdate y estate quieta, a ti te buscará saeta, y es el hombre al fin como sangría, que a veces da salud y a veces mata. Y es el hombre al fin como sangría, que a veces da salud y a veces mata. Espantarás a tu última esperanza. Es de tu puño algo cariñoso y es de tu adiós un ay mi amor, y de tu seña una sonrisita, y de tu fuga un ya voy llegando. Mija, qué pena me da de verte dejando olvidado a tu cuerpo, muy lista pobre boba dedicarte a la eterna disección de un pecadillo. Mujer, desnúdate, vístate quieta, a ti te buscará saeta, y es el hombre al fin como sangría, que a veces da salud y a veces mata. Y es el hombre al fin como sangría, que a veces da salud y a veces
la chanteuse canadienne Lassa sur son magnifique premier album La Llorona. Un choix, comme tous ceux de cette émission, que nous devons à notre invitée Mélanie Planchenot, directrice du théâtre Les Trois Chênes, où elle nous reçoit. Quand cet album est sorti, Mélanie, tu devais avoir, si mes calculs sont bons, 21, 22 ans.
C'est ça, ouais,
tu étais étudiante en histoire à la fac d'Angers. Ouais, est-ce qu'à ce moment-là, tu t'imagines, ou est-ce que tu n'imagines pas encore, que tu travailleras dans le secteur culturel, que tu seras un jour directrice d'un théâtre, ou est-ce que tu te vois autrement, prof d'histoire, j'en sais rien, archéologue, journaliste
Je me voyais pas à la tête d'un équipement culturel, ou enfin en tout cas effectivement la fac d'histoire c'était pour moi une approche peut-être éventuellement ensuite d'une école de journalisme. J'avais envie vraiment de me laisser toutes les portes ouvertes possibles
Donc de ne pas choisir quelque chose de trop spécialisé. Et oui, j'avais une appétence forte pour l'histoire, la géographie, parce que c'était les deux premières années, et effectivement aussi tournée vers la géographie humaine, la géographie physique. C'est vrai que c'était des domaines qui m'intéressaient beaucoup.
Ouais.
Aussi l'archéologie, parce qu'on avait des approches en option autour de l'archéologie, notamment médiévale, qui m'intéressaient. Donc voilà, c'était un champ de connaissances assez large. Qui m'a... Oui, les sciences humaines me plaisaient beaucoup.
Et qu'est-ce qui t'oriente un moment vers la culture ? C'est quoi le déclic ? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment tu bifurques, en tout cas tu t'orientes vers ça ?
C'est des rencontres. C'est une amie qui était rentrée l'année précédente au DU Connaissance et exploitation du patrimoine au Mans. Donc voilà, on en a discuté. J'ai approché un peu sa formation, cette année de formation. Et puis voilà, avec notre amie, on s'est inscrite à ce DU au Mans. Donc on a passé un an au Mans.
Un diplôme universitaire, du coup.
Un diplôme universitaire, voilà. C'était entre un DU, voilà. C'était entre ma licence d'histoire et ma maîtrise d'histoire. Voilà, un an, une parenthèse.
Ah oui.
Aussi parce que je me suis dit, voilà, je ne voulais pas être enseignante. Le journalisme s'éloignait de moi. Et voilà, j'avais envie aussi de mettre un pas concret, en fait, voilà, dans le monde aussi dit professionnel, en tout cas, d'approcher non plus voilà, des connaissances ou quelque chose de plus théorique, mais d'approcher aussi une mise...
Dans le concret.
Dans le concret, voilà.
Et est-ce que toi, à ce moment-là, j'imagine que si on se dirige aussi vers ces métiers-là, c'est qu'on a un goût pour, je ne sais pas, la littérature, le cinéma, le théâtre, les spectacles, la musique. Comment ça s'est forgé chez toi, tout ça?
En fait, ma sensibilité première, c'est la musique. Hein,
ouais.
Voilà, quelque chose que j'aime toujours. Hein. Programmer, c'est ce que, voilà, dans ma vie personnelle, j'écoute beaucoup de musique. Enfin, voilà, pour moi, ça a accompagné chaque étape de ma vie. Et je pense que c'est le cas pour beaucoup de gens. C'est-à-dire que je trouve que la musique, c'est un accueil immédiat, en fait. On est dans l'ordre de l'émotion, d'autres arts aussi. Hein. Mais en tout cas, pour moi, ça a été...
c'est ce qui va venir te prendre le plus facilement,
voilà,
te toucher le plus directement.
Me toucher, me cueillir. Enfin, voilà, et ça, depuis le collège. mais c'est lié à des rencontres également, avec un prof de musique hyper engagé dans la pratique artistique des élèves. Donc je faisais partie de la chorale du temps méridien, et puis en sixième, on est parti faire une comédie musicale pendant 15 jours en Allemagne, aux Pays-Bas, en Norvège. Enfin, c'était à 11 ans une expérience incroyable.
Et du coup, ça t'a
incroyable.
Pas tenté la vie d'artiste?
Ah, la vie d'artiste. je pense que j'avais une certaine réserve, je sais pas. En tout cas, je savais que c'était en tout cas, je suis pas allée vers ça, et puis peut-être heureusement, mais mais c'était vraiment j'ai approché ça. Après, j'ai fait un peu de la chorale à l'université, du théâtre, du piano quelques années. Donc, j'ai approché effectivement par la pratique.
Ouais.
Pratiques artistiques, mais effectivement, mais en tout cas, je pense que c'est un terrain, c'est un terreau, en fait, c'est un terreau pour la suite.
Et justement, ce terreau aussi, est-ce qu'il est lié à ton environnement familial ou pas du tout? C'est vraiment par les rencontres, par l'école, qu'à un moment, tu te forges une sensibilité, comme tu disais, parce que souvent aussi, ça vient bien sûr des parents, quoi, qui t'influencent, qui te guide aussi.
Et ben c'était l'école et les rencontres.
Ouais.
Voilà.
Ouais.
C'est l'école et les rencontres, et ça a été vraiment pour moi des étapes clés pendant mon enfance et mon adolescence.
C'est une façon aussi de construire son identité quelque part.
Exactement.
Peut-être aussi finalement sans vouloir se différencier de ses parents, c'est pas ça, mais trouver quelque chose à soi aussi.
Oui, trouver quelque chose à soi, connaître d'où on vient, ce qu'on a, ce qu'on en garde, mais aussi ce qu'on peut vivre en dehors de cet héritage, en fait, et du collectif, et de développer sa propre histoire et son chemin. Oui, oui.
Donc après un 2SS, on disait à l'époque, maintenant
et
on parle de Master 2, Tourisme, Patrimoine et Culture, ça c'était en 2001. Tu vas commencer à travailler au Parc Naturel Régional du Périgord-Limousin, en tant que chargé de mission développement culturel.
Oui.
Et puis tu vas débarquer ici en 2006.
C'est ça,
je ne me trompe pas.
Bah, ça fait 17 ans, déjà.
Et en fait, c'est rigolo parce que les deux endroits où tu as travaillé, finalement, ouais. sont des endroits ruraux. Enfin, est-ce qu'il y a un tropisme ? Est-ce que c'est quelque chose qui... C'est un choix ou est-ce que c'était le hasard de la vie qui a fait que tu t'es retrouvé à chaque fois dans des territoires, on va dire, à la campagne, quoi.
C'est vrai. Ce DESS, justement, c'était culture, tourisme, développement local. Donc ça, c'est important, en fait. Parce qu'effectivement,
ça fait le lien avec la géo.
Exactement, ça fait le lien avec l'inscription.
L'aménagement du territoire.
L'aménagement du territoire. Effectivement, j'ai effectué mon stage de DESS dans un parc naturel régional, mais c'était dans l'arrière-pays de Montpellier, sur la vie culturelle et artistique du territoire. Un parc, c'est avant tout un développement économique et social en lien avec la protection et la valorisation du patrimoine naturel, culturel et de la vie sur le territoire. Et ça m'intéressait, enfin ça m'intéresse toujours d'ailleurs, et c'est pour ça que je pense que je suis arrivée aussi ici.
Il y avait une continuité.
Sur le développement d'un projet culturel sur un territoire effectivement rural.
Alors, suite de l'histoire... On va un peu patienter. Après une seconde respiration musicale avec Raphaël Imbert, qui est venu ici.
Oui,
qui
deux fois.
Programmé ici. Donc saxophoniste avec un morceau qui s'appelle Going for Myself. Why don't you worry? Don't be ashamed to cry. You know I love my woman. Yes, I love my woman. I saw her way, bye-bye, bye-bye, honey. I love my mother. My father's in heaven, y'all. I'm out here on my own, but I'm not alone. Trying to have a little fun, y'all. Trying to have a little fun. I'm going for myself. Myself, I'm going for myself, for myself, myself. If I didn't need money, I need a whole lot of money, y'all, to live a Christian life. That's my life. And you know my outside appearance. How much do I have to give? I love my mother. My father's in heaven, y'all. I'm out here on my own now, but I'm not alone. Trying to have a little fun, y'all. Retour au théâtre Les Trois Chênes à Loiron-Ruillet avec sa directrice Mélanie Plancheneau. Mélanie, lorsqu'on reprend le fil de l'histoire qu'on commençait à tisser tout à l'heure, Lorsque tu es arrivé ici à Loiron en 2006, le théâtre où on est dans ton bureau d'ailleurs, le théâtre, il n'existe pas encore.
Non.
C'est une saison culturelle, la saison culturelle du Pays de Loiron, tu l'évoquais tout à l'heure, qui est une saison itinérante, c'est-à-dire que vous vous baladez de date en date dans les salles polyvalentes,
les
communes de la, les salles des fêtes, dans les communes du pays, quoi, de Loiron.
Oui, c'est ça. C'est comme ces nombreuses saisons culturelles en Mayenne. Hein. On a un maillage très, très riche et assez exemplaire au niveau national. Et effectivement, la communauté de communes a lancé sa saison au début des années 2000. Je suis arrivée donc 6 ans après. Et le principe, c'était effectivement monter plateau gradinage dans les salles des fêtes. Dans une coquille, on recréait un espace de spectacle. Et voilà, c'était un nomadisme sur les 14 communes du territoire. Et voilà, on allait au plus près des habitants. Et voilà, on proposait une saison pluridisciplinaire qui avait l'objectif d'être accessible et professionnelle et aussi exigeante dans le sens où les propositions artistiques était exigeante, travaillée et avec l'envie de s'ouvrir à un public pas forcément qui pratique beaucoup les salles de spectacle, puis en tout cas de lier aussi de tisser un lien avec les communes aussi d'accueil.
Bon, ça c'est des objectifs qui sont toujours les vôtres.
Et oui,
tu viens
toujours
d'exposer ce qui vous guide toujours dans votre travail. Seulement, il y a une vraie différence aujourd'hui, c'est que vous travaillez dans un lieu, un théâtre, même si tous les spectacles ne s'y déroulent pas, on pourra y revenir. Et tu commences à plancher très vite là-dessus après ton arrivée, puisque dès 2008, tu commences à réfléchir à un lieu d'accueil, un théâtre, et qui va aboutir à la construction du théâtre en 2013. Il a fallu 5 ans pour arriver à la construction du théâtre. Qu'est-ce qui a présidé à ce choix-là, en fait, à la volonté? Vous auriez pu rester sur une saison itinérante, tu le dis, il y en a plusieurs en Mayenne qui sont sur ce fonctionnement-là. Qu'est-ce qui a présidé à ce choix-là? T'en as un peu parlé. Il y avait une volonté du président de la Comcom, mais j'imagine que il y avait des arguments au-delà d'une volonté politique. Il y avait des arguments, des raisons. Qui vous ont emmené vers ça, parce que c'est pas anodin non plus de construire un lieu.
Non, c'était effectivement c'était aussi marquer cet interco d'un équipement qui soit adapté tout simplement aux artistes et aux habitants. Et puis on empruntait des salles des fêtes qui étaient elles-mêmes très empruntées. Il y avait aussi, c'était un peu un marathon on montait, démontait un spectacle sur deux jours demi maxi, pour les équipes qui travaillaient.
Parce que comme tu le dis, il fallait à chaque fois réinstaller un gradin,
scène,
mais pas juste 3 projos, quoi. C'est carrément une cage de scène.
Voilà,
avec
une boîte noire, on recrée une boîte noire.
Et effectivement, comme tu le dis, c'est 2 à 3 jours de montage-démontage.
C'est ça, donc
il y a un coût humain et financier aussi.
Voilà, et puis les salles des fêtes étaient occupées pendant 3 jours avec l'activité dans une commune,
plus de
une
ping-pong,
salle des fêtes. C'est ça. Donc voilà, et puis, ce qu'on se constatait, c'est que les gens nous suivaient aussi en partie.
Ah oui.
Voilà, les gens nous suivaient, il y avait ce paramètre-là à prendre en compte.
Quelle que soit la commune où vous alliez, finalement,
on
le public qui venait.
On avait un noyau, heureusement, un noyau de fidèles qui nous suivaient et aussi des gens de la commune d'accueil. Mais effectivement, on avait un noyau de spectateurs qui nous suivaient. Et puis, il y avait cette volonté aussi d'avoir de nouveaux espaces pour l'école de musique. Donc là, il fallait clairement construire des besoins, construire de nouveaux espaces. Donc cette salle est née en fait de ces constats-là.
Alors, c'est peut-être ce que vous avez pu observer aussi, mais est-ce qu'il y a un effet lieu, un effet finalement qui le lieu, la maison, en fait, entre guillemets, va incarner aussi votre travail, vos propositions, la saison culturelle, elle est incarnée par un endroit, en fait. C'est moins impalpable qu'une saison qui passe d'un lieu à l'autre, mais qui ne s'approprie pas finalement un espace. Est-ce que ça a joué dans l'appropriation aussi du public de ce que vous proposez? Et est-ce que ça n'a pas donné envie à des nouvelles personnes de venir parce qu'elles savent qu'elles vont dans un endroit, elles repèrent déjà l'endroit et elles savent qu'elles vont dans un endroit où on sera dans des très bonnes conditions?
Oui, c'est vrai. En fait, ça a vraiment matérialisé la saison.
C'est ça.
Il y a eu un avant, un après, quoi. C'est vrai que dans une salle des fêtes, quand on avait 100 personnes, c'était jauge pleine. On était
C'est bon.
Mais exactement. Et aujourd'hui, alors c'est vrai que la première année, avec une salle de 230 places, avec forcément cette commande politique de nous dire, bon, écoutez, la salle, si elle était remplie voilà, au maximum 2-3 fois dans l'année, et pour nous, c'est avec l'équipe, c'était un peu un défi.
Ouais,
oui,
voilà.
Il y avait un enjeu, hein, un enjeu. Et effectivement, comme tu le dis, hein, la salle a créé, l'équipement a créé tout de suite des envies de venir la voir. Certains ne sont venus qu'au jour de l'ouverture, en curiosité. Et ce qu'on nous disait, c'est qu'on est aussi bien assis qu'à Laval, par exemple.
Ouais, c'est ça.
Comme si une salle à la campagne allait être un peu au rabais ou pas tout à fait voilà, aussi professionnelle qu'un lieu dans un milieu urbain.
Ouais.
Et en fait, voilà, le constat a été fait et les gens ont été... je pense que ça relève aussi d'une fierté aussi de se dire que sur un territoire comme le nôtre, on peut avoir des qualités d'équipement.
Ouais.
Voilà, tout comme des équipements qui se trouveraient au cœur d'une ville.
Ouais.
Et ça a été vraiment un atout, en fait. Un atout pour cette salle, un atout aussi pour la saison, pour la programmation. Effectivement, les deux se sont nourris et ont servi. L'équipement aujourd'hui sert la saison, ça c'est sûr.
Et tu peux programmer des choses que tu n'aurais pas pu faire aussi, parce que tu as un plus grand plateau, parce que tu es équipé.
Bien sûr.
Ça t'ouvre bien plus de possibilités. Tu parlais de défis tout à l'heure. J'imagine que ça devait te mettre beaucoup la pression aussi d'imaginer ce lieu. Il ne faut pas se louper, quoi. Quand tu fais un lieu qui va durer plusieurs décennies.
Oui.
Faut, comme je viens de le dire, faut pas faire d'erreur, faut penser à tout. Comment ça s'est passé ce travail-là? J'imagine qu'au départ, il y a eu beaucoup de visites. Tu as été visiter d'autres endroits pour voir, pour aussi tirer le bilan avec le recul de ces endroits. Enfin, je sais pas comment tu as procédé en fait.
Oui, donc.
Et j'imagine que tu n'étais pas seule, mais tu étais à la tête de ça quand même. Tu as piloté ça.
C'est ça, effectivement. J'étais à la coordination du projet. Donc au départ, on m'a même demandé d'avoir une enveloppe, une estimation.
Combien ça va nous coûter?
Ah, combien ça va coûter? Alors moi, je ne suis pas économiste, hein, mais voilà. Mais avec voilà, ma casquette plutôt de développement de projet, etc., ce que j'aime faire toujours. Hein, mais là, c'était une chance d'avoir ce projet-là 2 ans après mon arrivée. Ben, je suis allée voir des salles, hein. Je suis allée notamment au Carré voir les collègues, je suis allée à Château-Gontier, j'étais allée aussi à Noyelles-sur-Vilaine, j'étais allée voilà, on était allée à Mauves-sur-Loire, on a vu plusieurs salles en fait, je suis allée voir plusieurs salles, on a fait des délégations d'élus aussi pour voir des salles, essayer de sentir un peu les lieux et puis d'avoir aussi cette approche financière. Que je vois aujourd'hui si j'étais loin ou pas du compte. Mais,
on a doublé le budget.
Et puis, non, alors effectivement, ce qui était...
C'était un budget de combien d'ailleurs?
Alors, on était à 5 millions d'euros. Voilà, et ce qui était aussi intéressant, et on a très bien travaillé avec l'architecte dans ce sens-là, c'est qu'on a maintenu le budget, quoi. C'était vraiment un impératif et en même temps, je trouve que c'est de l'argent public. Voilà, il y a eu cette commande faite et le conseil communautaire a suivi, mais il y avait effectivement de rester dans cette enveloppe,
alors,
ce qui a été le cas.
Qu'est-ce que vous vouliez comme lieu? C'était quoi vos envies et qu'est-ce que vous vouliez pas? La commande, en fait, à l'architecte.
Alors, à l'architecte, effectivement, on est parti des fonctionnalités du lieu. Hein, c'est-à-dire qu'on puisse avoir une salle de spectacle qui puisse fonctionner en même temps que les salles du conservatoire, hein, qu'on puisse avoir une mixité d'usage au même moment. Donc, l'acoustique était effectivement incontournable. Enfin, la bonne acoustique était incontournable.
Ouais,
et tout de suite, on a vu sur le plan de l'architecte que le couloir qui dessert notamment tout l'arrière, les parties techniques et l'arrière de la cage de scène faisait tampon acoustique, desservait en même temps les salles. Enfin, tout de suite, une fonctionnalité évidente qui se dessinait sur le plan. Voilà, il y avait cet impératif-là, une inscription aussi dans le paysage, on en a parlé tout à l'heure. Et puis, voilà, on a eu, c'est vrai que ce projet a répondu tout de suite à ce qui nous semblait, en tout cas, le préalable à un projet réussi. Et aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que ça a marché. oui, c'est vrai que. Non, mais bon, du côté plateau, les artistes sont vraiment. Voilà, bien sûr, je choisis les spectacles à dimension technique, à la dimension de la salle et à la dimension de l'équipe. Ça, c'est très important dans les paramètres de programmation. On en parlera peut-être. Mais en tout cas, le plateau est vraiment... ça répond vraiment aux besoins des équipes artistiques.
Et le public?
Et le public aussi.
Adhère?
Oui, le public adhère au lieu, tu
veux préciser. Lieu et à la programmation.
Oui.
C'est un effet, comme tu disais, c'est une globalité, mais comme tu disais, vous aviez peur de ne pas remplir la salle au départ.
Ah oui.
Aujourd'hui, vous êtes à 230 tous les soirs. Enfin, c'est complet presque à chaque fois. Et si les gens viennent, c'est aussi pour la qualité de la programmation. Mais je pense aussi, on a beaucoup de retours de ça, du public qui dit on est bien ici, quoi.
Et oui, on est bien. On en reparlera peut-être après. Mais on a une équipe de bénévoles qui participe vraiment à ce que le lieu soit chaleureux, à l'accueil. Et puis voilà, à la proximité entre la scène et le gradin. C'est pas numéroté. On vient, si on arrive un petit peu plus tôt, eh bien, on sera peut-être un peu plus proche du plateau. Mais voilà, il y a ça aussi, cette simplicité. Pour venir ici et pour vivre ce moment de spectacle.
Violoncelliste Vincent Segal et le joueur de kora Balaké Sissoko, qui se sont produits tous les deux plusieurs fois ici au Théâtre des Trois Chênes. On va pas citer les dates, en 2018, en 2022 notamment pour Balaké Sissoko. On peut en parler de ces programmations où on sent que tu tires aussi des fils avec les artistes, que tu aimes bien réinviter. C'est vrai pour les musiciens, mais il y a aussi des compagnies de théâtre qui sont pas des habitués, ils n'ont pas leur ronde serviette ici.
Leur loge.
C'est ça, avec leur
déjà prête avec leur
nom. Mais en tout cas, voilà, on sent qu'il y a dans la programmation, puis on va parler de comment tu l'as bâti cette programmation, mais on sent déjà qu'il y a ça, qu'il y a aussi une fidélité, l'envie de suivre le travail de certains artistes.
Oui, ça fait partie voilà, du rôle aussi du programmateur ou de la programmatrice d'être, de connaître, de suivre le travail des compagnies, des équipes artistiques. Et puis, ça crée un lien avec le public. Hein, oui. On réinvite, ce qu'on nous dit, c'est effectivement, on aime revoir des artistes qui ont créé un nouveau spectacle. Donc ça, c'est quelque chose qu'on essaie de faire au fil des années. Effectivement, Balaké Sissoko qui revient, Vincent Segal était venu en 2014, qui revient après avec Lionel Suarez. Enfin voilà, ça crée des...
Des histoires.
Ça crée des histoires, exactement, et un lien particulier avec ce lieu.
Et justement, on pourrait s'arrêter sur cet exemple. Pourquoi, à un moment, tu décides de programmer Balaké Sissoko? Quelle case il coche pour que tu te dises, bon, allez, OK, celui-là, ce spectacle-là, je le programme l'année prochaine.
C'est... Oui, c'est ça.
Guide le choix.
Oui, on guide. Alors, dans une commande, hein, c'est-à-dire d'une saison pluridisciplinaire, ça c'est important. On a, et je pense que ça a été aussi assez essentiel dans la réussite, si je puis dire, du lieu. Hein. C'est qu'en fait, des gens sont venus, une entrée peut-être pour la musique ou le cirque, et en fait, par des tarifs bas. Aussi, oui. Ça c'est important dans la
l'accessibilité.
Exactement, c'est de se dire bon bah pour je prends pour 27 €, je peux voir 3 spectacles, après c'est 9 € le spectacle et je peux découvrir du cirque, du théâtre, aller voir tel ou tel musicien, je ne serais pas allé naturellement, mais effectivement, je fais confiance à la programmation et je découvre. Et ça c'est assez essentiel effectivement pour pouvoir aussi fidéliser un public. Et puis aussi, ouvrir aussi vers des publics qui ne viendraient pas naturellement sur tel ou tel spectacle. Donc ça, la diversité de la programmation, c'est très important. Balaké Sissoko, c'est un artiste que je connais depuis longtemps. Voilà, forcément, ça rejoint des écoutes personnelles. Et puis aussi, on a en tant que pro l'actualité des artistes qui sort, on reçoit un mail, on recherche l'info. Et effectivement, on peut suivre leur actualité. Et c'est vrai que... Balaké Sissoko, c'est un très grand artiste malien et voilà qui a des collaborations incroyables comme avec Vincent Segal. On entendait Musique de nuit, magnifique album. Et puis effectivement l'année dernière on l'a reçu comme un récital en fait. Il était en solo avec Sakura. C'était un moment comme suspendu, incroyable.
Tu aimes bien les artistes justement qui sont parce que Balaké Sissoko c'est un bon exemple, quelqu'un qui est à la frontière en fait de la musique traditionnelle, de la musique classique. La musique contemporaine, du jazz. Et j'ai l'impression que tu aimes bien ces artistes-là qui naviguent un peu.
Exactement. Quand tu m'as parlé de la playlist, j'ai regardé. Mais...
Oui, parce que c'est vrai que la playlist de cette émission a été concoctée par tes soins.
Exactement. Donc là, on fait le focus aussi sur des artistes qui sont venus ici. Forcément que j'avais envie d'accueillir ici et de faire découvrir au public. Mais aussi dans ma playlist plus personnelle, c'est j'aime les croisements, ça c'est sûr. J'aime les croisants. Laza était un exemple en fait entre soul, folk et puis cette musique aux racines mexicaines.
Ouais,
enfin, j'aime la voix aussi. J'aime beaucoup la voix. J'aurais pu parler de Rocío Márquez qui est venu ça fera 4 ans. Voix magnifique du flamenco. Oui, j'aime ce croisement. Comme aussi effectivement Raphaël Imbert au croisement de c'est vrai, c'est quelque chose que j'aime et qui forcément un programmateur va donner l'âme d'un lieu, ça c'est sûr.
C'est quoi l'empreinte que tu programmation, qu'est-ce qui à un moment à ton avis, c'est difficile de définir ça parce que finalement c'est peut-être pas la mieux placée, mais à ton avis, qu'est-ce qui fait l'empreinte de ta programmation, même si on sait bien aussi, et on en reparlera, que c'est pas que des choix personnels et des choix de goût. Mais si on parlait quand même de ça, des goûts, il y a l'histoire du croisement
qu'on a évoqué, la
voix que tu évoquais. Qu'est-ce qui te guide aussi, qu'est-ce qui fait qu'à un moment, un spectacle, tu dis ça c'est vraiment chouette, j'ai envie que les autres le voient.
Bah, que ça puisse résonner aussi à des enjeux de société, enfin voilà, à des enjeux voilà qui puissent amener à... enfin je pense que ce qui se passe sur une scène, c'est ce qui va éclairer sa connaissance du monde, sa compréhension du monde. Parfois on se sent moins seul avec des sujets qui sont abordés, où ça met ouais, des mots, vrai. Ça met des émotions sur ce qu'on vit de manière intime, et on parle, on partage collectivement, mais avant tout, voilà, on repart avec ça et avec voilà un éclairage peut-être. Et c'est peut-être ça permet d'être un peu moins envahi et moins confus par rapport à tout ce qui se passe autour de nous. Donc, puis il y a des choses qui sont faites avec des enjeux de société, mais qui sont faites avec humour, avec joie. Je pense aux filles de Simone, les secrets d'un gainage efficace. Enfin voilà, c'était au plateau, c'était jubilatoire.
Et en même temps, c'était des vrais sujets.
C'était des vrais sujets.
Sur la place des femmes, sur le féminisme.
Exactement. Donc ça dépend, on peut parler de tout, je crois, ça dépend de comment c'est traité, avec quelle délicatesse ou pas d'ailleurs. Hein, mais en tout cas, voilà, c'est ce qui me mène vers des projets assez divers finalement.
Ouais.
Parce que je suis de nature aussi curieuse. c'est important sur une...
je pense, oui.
Oui, sur une... voilà, c'est mais c'est toujours bon de se le redire, quoi. La curiosité permet justement de s'ouvrir à toute forme de voilà de propositions artistiques, et puis se dire aussi, ça c'est important, que le public est curieux aussi, et lui faire confiance dans sa curiosité.
Pas se former, trop fermer de portes en fait.
Non, voilà, c'est ça. Non.
Alors choisir, parce que la programmation c'est choisir, choisir des spectacles, c'est renoncer aussi. T'envoies combien de spectacles à l'année pour en choisir 16 ou 15
Oui, voilà, ben oui, forcément, on a une liste qui s'accumule au gré des repérages, et puis on en règle, on en diffère.
C'est combien de spectacles à peu près que tu visionnes, que tu vois
Une centaine peut-être, voilà.
Donc il y a 10% qui reste, ou 15%.
Voilà, on en programme 18 à 20, enfin 18 ans, ouais, voilà. Et effectivement, mais oui. Et puis, il y a des projets qu'on suit. Alors, effectivement, il y a la création aussi, hein, qu'on soutient ici. Donc, il y a des projets qui sont dans la programmation qui ne sont pas encore créés. Hein, voilà. Et donc, ça permet... voilà, c'est le rôle essentiel aussi de nos lieux, c'est d'accompagner la création artistique. Donc là, il y a aussi des spectacles qu'on programme, qu'on n'a pas vus, mais on fait confiance aux équipes artistiques parce qu'on les connaît. Voilà, donc effectivement, oui, on arrive, eh bien, les paramètres, il y a des paramètres effectivement d'équilibre des esthétiques,
c'est ça, voilà.
Et des
pas
arts.
Que de la musique ou de du cirque.
Voilà.
Puis il y a aussi des critères, forcément, j'y viens, économiques, quoi.
Et
à un
oui.
moment, un spectacle cher, trop cher.
Voilà, exactement. On a une salle de 230 places, on a tel budget artistique.
Une tête d'affiche, ça va être compliqué ici.
Oui, alors effectivement,
puis
là.
C'est pas forcément le projet.
Non, ça n'a pas été le projet. Avec une salle de 230, ça aurait été un petit peu...
compliqué.
Ou non, compliqué. Et puis, clairement, il faudrait un budget plus important. Mais c'est pas... je veux dire, il y a tellement de choses possibles. Et les gens ne s'y trompent pas, d'ailleurs. Ça ne peut pas rejoindre toutes les sensibilités. C'est comme un film qu'on voit au cinéma. Bon, bah, ce film, j'ai moins aimé, mais j'y retourne. Et là, c'est pareil. C'est de se dire, là, peut-être que ça m'a moins touché, mais par contre, qu'est-ce que c'était bien fait. Il y avait l'exigence artistique. On avait des comédiens, musiciens, comédiens, ça joue bien. Enfin, ça, c'est important de voir qu'il y a du travail derrière. Est-ce que les... voilà, quand les gens ressortent de la salle, bon, ce qu'on préfère, c'est qu'ils aient aimé le spectacle. Bon, 95%, c'est tout bon.
Bah, c'est déjà pas mal.
Voilà, c'est beaucoup.
Un beau score.
Voilà. Mais qu'en fait, on voit la qualité du travail. Quoi. Que aller sur un plateau, sur une scène, c'est des mois de travail en amont et des semaines.
Bon, alors il y a tous ces critères-là qui t'amènent à un choix. On pourrait aussi parler des critères techniques, tu
ne
peux pas tout programmer. Donc ce travail-là, c'est celui que tu assumes ici, mais ton travail de directrice ici ne se résume pas à la programmation, à voir des spectacles et à en programmer. Il y a aussi tout le travail de direction, justement, qui implique un suivi budgétaire du lieu, pareil, de l'activité. Et puis, voilà, tu manages, tu drives une équipe. Tu n'es pas toute seule pour faire tout ça.
Ah,
ouf. Voilà, tu as aussi des collègues avec qui tu travailles, voilà, à la communication, à la médiation. Est-ce que tu peux nous présenter un peu l'équipe avec qui tu travailles ici? Ça fait un moment en fait qu'ils sont là avec toi.
Oui.
Les 10 ans qu'on a fêté du théâtre, c'est aussi quelque part les 10 ans d'une équipe soudée qui travaille bien ensemble en fait.
C'est vrai, bien sûr, toute cette trajectoire là où on est arrivé pour les 3 chaînes sont arrivées vraiment avec une inscription dans le paysage culturel du territoire, de l'agglo, même du département. Et c'est vrai que c'est le résultat d'un travail d'équipe. important et de personnes engagées, quoi. Effectivement, ma collègue Marie Churin, médiation, communication, qui est responsable. Et oui, à côté de nous, responsable billetterie. En fait, on est tous multicasquettes, quoi. On est un peu couteau suisse.
Ah, vous êtes peu nombreux, donc.
On est peu nombreux, on est 4, 3,5 équivalents temps plein, exactement. voilà. Eric, qui est à la régie générale du lieu, et bien sûr, on a notre équipe d'intermittents qui viennent ici donner main forte pour l'accueil des équipes artistiques, et puis Ségolène qui est sur effectivement l'accueil des artistes, l'enregistrement comptable, moi-même je fais l'administration, voilà, on est vraiment polyvalent, mais je crois que c'est ce qui fait la richesse aussi de nos missions ici, et on ne s'ennuie pas.
Ton regard sur moi se pose, tu ne vois, je suppose, qu'une montagne qui surplombe, ou parfois le tonnerre gronde. Dire que j'ai porté, c'est drôle. Ce
Maison Tellier avec Atlas sur le dernier album du groupe qui sera accueilli ici le 20 octobre au Théâtre des Trois Chênes. Je crois qu'il reste quelques places d'ailleurs.
Et si, oui, il reste
si
des
ça
places.
Vous intéresse. Donc la saison est bien lancée. Hein. Il y a eu l'anniversaire dont on a parlé tout à l'heure. Cette date qui arrive de la Maison Tellier. Il va y avoir à peu près une quinzaine de rendez-vous, peut-être un peu plus sur cette saison entre cirque, théâtre, musique, comme on disait tout à l'heure. On balaye plein de champs. Et vous allez pouvoir découvrir toute cette programmation dans le programme du théâtre ou sur le site internet. Mais c'est pas que ça, le théâtre des Trois Chênes. Le théâtre des Trois Chênes, c'est aussi plein d'autres actions qui sont peut-être plus souterraines, moins visibles, dont ce qu'on appelle la médiation, les actions culturelles, tout le travail qu'on peut faire, que vous pouvez faire avec les scolaires, avec différents publics, d'ailleurs, c'est pas forcément que les écoles, mais ça fait partie vraiment d'une mission importante aussi de ce lieu.
Oui, c'est vrai, là on a parlé des spectacles, de la diffusion, donc il y a un axe socle aussi effectivement du théâtre, et puis il y a deux autres axes, il y a celui effectivement, tu en parlais, de la médiation, tout ce qui concerne, on a intitulé ça nos bords de scène, et puis notre programme à destination des scolaires, voilà, c'est la vie du théâtre qu'on ne voit pas. On accueille ici près de 1500 scolaires par an. Voilà,
Qui
viennent voir des spectacles, effectivement, qui peuvent bénéficier aussi d'ateliers de pratique avec les artistes, de visites du lieu. On tient à ce que ce lieu soit ouvert un maximum. Et c'est vraiment une expérience en fait pour ces plus jeunes en fait qui découvrent souvent pour la première fois un spectacle. Et on l'espère, dans leur cursus scolaire, pourront venir plusieurs fois ici. On développe aussi un projet d'éducation artistique et culturelle avec les collèges dans le cadre d'un projet d'ESC. Donc là, effectivement, ces projets avec les scolaires et puis pour le tout public, parce que c'est important que la pratique soit pas centrée seulement vers les plus jeunes, mais aussi, moi je suis, j'ai 40 ans, j'ai envie de m'essayer au jonglage, et ben c'est possible parce qu'on monte avec les équipes artistiques des ateliers qui puissent être abordés par les non-pratiquants. Donc là, on le fait, notamment, là je pense, avec le collectif Petit Travers, on aura un atelier de jonglage et manipulation d'objets, ce sera en novembre, des ateliers de danse par enfants, un atelier autour du spectacle enfance, un atelier danse.
C'est important de dire aussi, j'espère que je ne me trompe pas quand je dis ça, que ce n'est pas simplement quelque chose qui serait de l'ordre, on fait des ateliers pour que les gens viennent après au spectacle. C'est une fin en soi, en fait, aussi, ces actions. C'est pas juste pour constituer le public de demain ou je ne sais quoi. Enfin, il y a aussi l'envie simplement de transmettre des choses, de créer des rencontres, de créer de l'envie certes, mais c'est plus large que simplement un truc un peu.
Oh oui, tout n'est pas calculé. Quoi que c'est super quand ils viennent après au spectacle
oui,
ou avant.
C'est bien
ça
aussi.
Crée,
c'est
et en général,
objectif,
c'est ça.
C'est ça que
non,
je voulais dire.
Non, non. C'est de créer un moment à soi, pour les gens, de d'être dans un moment un peu privilégié. C'est rare qu'on soit aussi à proximité, des artistes.
C'est ça.
Qu'ils partagent leur pratique, leur art, et ça c'est une expérience un peu inédite, tout comme pendant les résidences d'artistes, on a des moments de répétition publique. Donc ça, c'est comment ça se passe au plateau.
Démystifie aussi le travail des
exactement
artistes.
Et puis c'est des gens comme tout le monde et qu'ils aiment la rencontre, le partage. Alors effectivement, la médiation, c'est là pour faire la rencontre entre les artistes, les œuvres et le public. C'est ce qu'on fait par ces temps-là, par des artistes qui ont envie de le faire. Ça, c'est important, la sincérité en fait du partage. Et c'est évident que ça crée des moments dont les gens se souviennent. Ils ont envie aussi de voir le spectacle. Et ça crée une expérience qui est appréciée.
Les résidences, tu en parles, donc vous en accueillez régulièrement des artistes qui viennent travailler ici, comme on dit, en résidence, c'est-à-dire qu'ils vont travailler ici plusieurs jours, parfois peut-être une semaine, deux semaines. Vous leur mettez à disposition le lieu et ils peuvent y travailler et créer en fait leur spectacle, le répéter. Ça, c'est une activité qui représente, je ne sais pas combien de jours par exemple, d'accueil.
Oui, alors cette
sachant
année...
Sachant que c'est aussi pas simplement une mise à disposition, moi je te coupe, mais aussi une rémunération des artistes qui sont là.
Exactement, mais oui, un spectacle
c'est un vrai engagement.
Que l'on va voir, c'est une équipe derrière, techniciens, artistes, technique de une compagnie aussi avec des chargés de diffusion qui travaillent en amont forcément. Donc là, on soutient la création par des moyens de production en coproduction de spectacles dans le cadre des possibilités budgétaires en fait que du projet global bien sûr. Mais souvent on nous dit chaque soutien permet de
lancer un projet, en fait. Il n'y a pas de petit soutien. Et voilà, donc on a, on a une enveloppe vraiment dédiée au soutien à la création. Et puis après, comme tu le disais, on met à dispo le plateau en ordre de marche. Eric est là pour accompagner, pas sur la totalité de la résidence, mais en amont, les premiers jours après, pour justement créer les conditions techniques nécessaires à ce moment de, au moment de création des compagnies. Cette année, on reçoit 7 compagnies en résidence. On a renforcé après. Ça a été aussi une volonté politique qu'on a partagée, nous, au sein de l'équipe, d'accueillir plus de résidences après les années Covid. C'est vrai qu'il y a un avant-Covid, un après-Covid. Ouais. Effectivement, il y a eu vraiment ce besoin d'ouvrir, notamment quand les salles étaient fermées, au soutien à la création et d'accompagner toujours et encore plus fortement les compagnies en création. Là, on vient d'avoir les Guêpes Rouges Théâtre qu'on a accueilli l'année dernière avec les cartographies de l'avenir et qu'on accueille dans le cadre d'un projet d'EAC avec Joutapnix. Et là, on les a accueillis une semaine de répétition pour leur prochain projet, 14 juillet, cette fois la Révolution. La compagnie In Situ est venue créer, Gérald Bertevaz, Laurent Ménez, une visite théâtralisée des Trois Chênes. Ils sont restés plusieurs jours ici. La compagnie A sera en résidence aussi. La compagnie A, la compagnie Angevine, qu'on a déjà accueilli. Théâtre d'objets, avec des précédents spectacles. Ils vont sortir un spectacle autour de Barbara. On les accueillera en résidence 10 jours en janvier. Ouais. Le collectif 1.5, Gabriel Hum, qu'on accompagne aussi, il vient avec un spectacle en avril.
C'est de la danse.
C'est de la danse, oui. Oui, il vient en spectacle en avril avec une pièce avec 5 danseurs. Et là, il a un prochain projet. J'ai découvert un premier labo de travail au Centre chorégraphique national de Nantes. Voilà, on rencontre les artistes aussi avant. Voilà, c'est pour ça qu'il y a vraiment une vraie histoire qui se tisse. Et je suis allée voir un labo de travail. Je me suis dit, c'est super, on l'accueille ici en résidence. Il présentera, il fera la première du spectacle ici novembre prochain. Voilà, tout est calé dans plus d'un an.
Ouais,
voilà.
ça se réfléchit à l'avance,
oui.
Tout ça. Merci pour tous ces éclairages. Merci, merci. Pour ton accueil ici. Malheureusement, on est dans la dernière séquence de cette émission. On aurait eu encore plein de choses à se dire. Merci en tout cas pour ton accueil ici dans ce beau théâtre à qui on souhaite encore un très bel dixième anniversaire. Merci pour cette heure passée ensemble. On aura le plaisir de revenir bientôt ici avec Transistor, puisque c'est aux Trois Chênes qu'on sera enregistré en public. La prochaine émission Transistor Live, ça sera le 8 décembre, avec sur scène 5 artistes qui figurent sur la nouvelle compile Transistor, que je vous encourage à écouter sur les plateformes de streaming. Cette émission, justement, vous pourrez aussi la retrouver en podcast sur notre site transistor.org, ainsi que toutes les précédentes émissions qu'on a pu réaliser. Rendez-vous en novembre pour une nouvelle émission. D'ici là, faites de beaux rêves.